Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 2 décembre 1991.
Me disait la dernière fois que le livre d'État d'Aristote est sûrement, au plan de l'histoire de la pensée, au plan philosophie première, un livre qui a une valeur très particulière, puisque c'est là où, de fait, Aristote expose l'induction synthétique, analogique de l'être en acte. C'est ce qu'il dit, hein, ce sont ses expressions. Donc, expressément, Aristote dit qu'on ne saisit l'être en acte que par une induction. Et une induction synthétique. Ces termes. Il expose ensuite, hein. Je reprends parce que je crois qu'on peut l'entendre plusieurs fois, étant donné la difficulté que ça représente. Il ne faut pas croire qu'en lisant une fois Aristote, vous le comprenez. Hein. Si vous croyez ça, ça prouve que vous n'êtes pas très intelligent. C'est assez superficiel. C'est vrai, c'est les pointes de l'intelligence, vous voyez, c'est l'Himalaya. Et voir qu'au fond, c'est toujours là où la pensée s'est arrêtée. C'est impressionnant de voir ça. Quand on voit toutes les conséquences, hein, même au plan chrétien, si je n'arrive pas à saisir vraiment ce que c'est que cette découverte de l'être en acte, je crois, et j'en suis sûr, que notre intelligence ne peut pas arriver à découvrir par elle-même l'existence de l'être premier. Vous savez, on n'hésite pas de faire, quand on est jeune, de faire de grandes courses de montagne pour être là le matin au lever du soleil. Ça vaut la peine. Bien, je crois que le lever du soleil, pour nous, au plan philosophique, c'est cette découverte de l'être en acte. C'est saisir ce sommet intellectuel qui permettra ensuite, comme on le verra, qui permettra à notre intelligence de saisir le principe de causalité finale dans l'ordre. Je sais très bien, je n'en fais aucune illusion, que aujourd'hui, on peut dire que c'est complètement ignoré. L'autre jour, je voyais un étudiant qui avait fait sa maîtrise là-dessus. Ça, mais celui qui tout s'appelle Dieu. Dans l'histoire de la pensée, de notre pensée européenne, c'est très net. On verra dans l'application avec saint Thomas que dès qu'on ne saisit plus cela, on prétend découvrir l'existence de l'être premier par la causalité efficiente, ce qui est impossible. Parce que nous avons vu qu'il n'y a pas de causalité efficiente propre dans l'ordre de ce qui est. Donc on ne peut pas découvrir l'existence de l'être premier par la causalité efficiente. Toutes les apologétiques du début du siècle ont posé dessus, jusqu'au Big Bang. Quand on essaie de comprendre comment on fait ça, il faut trouver le point de départ de l'œuf. C'est tout simplement la chose classique. S'il y a un œuf, il y a une poule, s'il y a une poule, il y a un œuf. Ah oui. Et à quel moment vous vous arrêtez à la poule ou à l'œuf? Dans l'ordre de la causalité efficiente, il n'y a pas de premier. C'est ça qui est extraordinaire. Il faut atteindre la fin. C'est pour ça que c'est si important. Et alors, Aristote a compris ça. Alors que Platon ne l'a pas saisi. Platon est resté dans la primauté de la cause formelle. Ça, c'est net. C'est la cause formelle, exemplaire, qui est l'ultime saisie au point de vue philosophique. L'idéa, si vous voulez, l'idée, la forme en soi, le bien en soi, le beau en soi. Je ne dépasse pas cela. Alors on n'atteint pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas une forme. Il ne peut pas être une forme. Il est source de toutes les formes. Et c'est l'erreur qu'on retrouvera dans la philosophie de tous ceux qui ne dépasseront pas un panthéisme. Ils resteront dans une forme de panthéisme. Alors, si Aristote, prenez le petit raisonnement très simple, sans simplement critique, si Aristote dit qu'on ne peut pas saisir l'être en acte en dehors d'une induction synthétique analogique, il veut nous faire comprendre que l'être en acte est un principe, puisque l'induction s'est dit explicitement dans les seconds analytiques. L'induction est le procédé intellectuel par où nous découvrons les principes propres. On passe du visible à l'invisible. C'est par l'induction. Alors, il faut ensuite essayer d'induire. Mais je regarde d'abord de l'extérieur. Je regarde ce que dit Aristote, ce que, tout simplement, pour être honnête, l'induction nous permet de saisir les principes propres. Donc, l'être en acte ne peut pas être quelque chose que je saisis directement. Quand je dis « ceci est », je saisis bien, de facto, un être en acte, mais je ne saisis pas l'être en acte. C'est pas la même chose. Quand je dis ceci et je saisis une réalité qui est en acte, c'est évident, elle est en acte, elle existe. Le fait d'être n'est pas la même chose que l'être en acte. Il faut arriver à discerner la différence entre le principe et le fait d'exister. Quand je dis il y a, et quand je dis ceci est, c'est pas la même chose. je constate le fait d'exister. Ceci est l'intelligence saisie dans la réalité. Quelque chose qui est en acte. Elle ne saisit pas l'être en acte, mais quelque chose qui est en acte. Parce que, autrement, la métaphysique consiste en jugement d'existence. Le jugement d'existence est un point de départ nécessaire pour poser un principe propre dans l'ordre de la fin. En vue de quoi l'être ? Vous voyez ? En vue de quoi l'être ? C'est évident que le « en vue de quoi l'être » ne me fait pas découvrir quelque chose qui n'est plus être, un super-être. C'est ce que certains diront, n'est-ce pas ? Non, à l'intérieur de l'être, je saisis son acte. Ce au-delà de quoi je ne puis pas aller. Et l'acte d'être, nous verrons ensuite. C'est l'être qui a sa totale autonomie. Il est. Et c'est à partir de là que je pourrais saisir métaphysiquement le bien. Le bien est une modalité de l'être en acte. C'est pour ça que c'est important, vous voyez. C'est toute la saisie métaphysique du bien qui se fait par l'être en acte. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas deux métaphysiques, une de l'être et une du bien. Mais qu'il y a une seule métaphysique, la métaphysique de l'être, mais l'être en acte. Comprenez, Aristote se trouvait en face de Platon, qui mettait l'un au-dessus de l'être, qui mettait le bien au-dessus de l'être. Pourquoi ? Parce que l'être, c'était l'intelligibilité, la forme en soi.
On voit bien,
la plupart disant ouvertement, celui qui est donc professeur, qui était professeur à l'Institut catholique de Paris, dominicain, que j'ai très bien connu, exposer la grandeur de Hegel. Et Hegel, on ne peut pas le critiquer. Et puis il ajoutait tout de suite, mais surtout ne venez pas hegelien, parce que vous perdrez la foi. Et c'est ce qui se passe. Les théologiens hegeliens aujourd'hui perdent la foi. C'est-à-dire, la foi devient relative à ce qu'ils ont pensé de la foi. Ce qui est perdre, ce qui n'est plus être un petit, c'est devenir un sage et un prudent au sens de l'évangile. Je te rends grâce d'avoir révélé ces choses aux petits et non pas aux sages et aux prudents. Parce que on domine et on veut dominer la foi. Donc, c'est quand même très important. Je crois qu'on ne peut dépasser la philosophie hegelienne que dans la mesure où on a saisi l'être en acte. Tant qu'on l'a pas saisi, au fond, on ne dépasse pas la philosophie hegelienne. On sera en face d'un hegelien, on dira oui. Je ne le suis pas grâce à Dieu, mais je ne sais pas comment je peux vous montrer votre erreur. Et vous vous trouverez dans des théologiens hegeliens. Parce que c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui. Il faudra arriver à être suffisamment pénétrant pour montrer là où il y a la faille. Vous voyez, le combat de David enfant de Goliath. C'est exactement ça. David, il l'affronte. Il a vu où il y avait la fissure chez Goliath. Avant de s'avancer vers lui, il l'a bien regardé. Il a voulu être intelligent. Mais c'est comme le petit gosse, celui qui chassait les éléphants en disant l'homme a l'intelligence. Et c'est pour ça qu'il peut arriver à abattre cette grosse bête. Parce qu'il a l'intelligence. L'éléphant ne l'a pas. Hegel a l'intelligence. Et ramené à la raison. Ce n'est pas l'intelligence de l'être. C'est la vie de l'intelligence. Ce n'est pas la même chose. La vitalité immanente de l'intelligence. C'est pour ça que j'insiste, parce que je crois que c'est capital, profondément. Alors, je ne dis pas que vous allez le saisir en première année, non, surtout pas. Vous le saisirez si vous arrivez à être fidèle. Après toutes vos études de théologie, vous commencez à dire, oh tiens, c'est vrai, on m'avait dit ça en philosophie, j'avais rien compris. Alors, on le découvre progressivement, il faut du temps. Il faut du temps à entrer dans la métaphysique de l'être en acte. Mais il faut au moins savoir que c'est un sommet. Que là, l'intelligence touche quelque chose de très, très ultime. Qui lui permet de comprendre que la métaphysique de l'être peut rendre compte du bien. C'est la seule manière. Il n'y a pas 36 manières, il n'y en a qu'une. Il y a la petite porte d'entrée. Et une fois qu'on a compris l'être en acte, alors on peut saisir ce qu'est le bien. Qu'est l'être en tant qu'il est capable de m'attirer. M'attirer et de susciter en moi un amour. Puisque c'est ça le bien. Alors, la très grosse difficulté, c'est de dépasser ce que je vous disais la dernière fois, les différents états. Je suis en puissance, je suis en acte. C'est les comment, c'est les pauses. Je peux décrire. un état en puissance. Je peux décrire un état en acte, mais je ne peux pas décrire l'être en acte. Je le saisis comme au-delà de l'être en acte et de l'être en puissance. Au-delà de ces deux états particuliers. Et je le saisis comme fin, principe. Alors, je reprends ce petit texte d'Aristote, parce qu'il est quand même important. Et puis alors, n'oubliez pas ce que je vous disais la dernière fois, que quelqu'un comme Heidegger, lui, reconnaît tout simplement sans duresse, le comprendre parfaitement. Je ne crois pas qu'il l'a saisi parfaitement. Mais il reconnaît que c'est le sommet de la philosophie grecque. C'est intéressant puisque Heidegger est extrinsèque à ce que représente cette recherche d'une philosophie réaliste, bien qu'il ait senti la nécessité de quitter Husserl, la philosophie phénoménologique, pour redécouvrir le point de vue du réel. Voici comment Aristote présente cette démarche inductive, analogique, synthétique, comme celui qui bâtit à l'égard de celui qui peut bâtir. Vous voyez, les deux états, celui qui bâtit à l'égard de celui qui peut bâtir. Ça, je le constate. Je le constate. Et on le constate tout le temps. Quelqu'un qui pourrait bâtir et qui ne bâtit pas. Chef de chantier, il peut bâtir, mais il ne bâtit pas. Et il adore dormir un petit peu trop. Alors il peut bâtir, mais il ne bâtit pas encore. Et alors on se fâchera, on dira, mais quoi, vous êtes capable de le faire et vous ne le faites pas encore. Vous ne direz ça jamais à quelqu'un qui ne peut pas bâtir. Vous n'êtes pas l'attraper parce qu'il n'a pas bâti. C'est quelqu'un qui peut le faire. Vous le dites, ça prouve que vous connaissez très bien la capacité de quelqu'un. Il peut bâtir. Il ne bâtit pas. Celui qui peut bâtir est responsable, qui peut passer en acte. Vous voyez, deux états particuliers, comme celui qui bâtit à l'égard de celui qui peut bâtir, celui qui est éveillé à l'égard de celui qui dort. Vous avez fait l'expérience ce matin, j'espère. Celui qui vient, qui voit à l'égard de celui qui a les yeux fermés, tout en possédant la vue, celui qui est séparé de la matière à l'égard de la matière, ce qui est élaboré à l'égard de ce qui ne l'est pas. Déterminons l'acte par l'une de ces parties de ces différences, le possible par l'autre. Ah, c'est là toute l'astuce. On voit, on décrit tous ces états, et on voit que dans tous ces états, l'intelligence, là, voit quelque chose d'analogue. Celui qui dort et celui qui est éveillé est analogue à celui qui peut bâtir et qui bâtit. À ce qui est la matière et celui qui est séparé de la matière. À ce qui est élaboré à l'égard de ce qui ne l'est pas. Alors, en fait, tout simplement, il faut essayer de saisir ça. Ces états sont semblables. C'est-à-dire qu'il y a un ordre. Un ordre où il y a quelque chose de semblable. L'intelligence voit que ce quelque chose de semblable dépasse l'ordre de l'action vitale, puisque ça existe à l'égard de celui qui peut bâtir, celui qui bâtit, je suis devant une action volontaire, éthique. À l'égard de celui embrassant plus profondément et en regardant ces différents aspects, ces différents niveaux au niveau de l'être. Donc, induction synthétique, analogique. Et en me plaçant du côté de l'être, je saisis. En effet, l'ordre qui existe entre ces différents états, celui qui est en puissance et celui qui est en acte, je le retrouve dans l'ordre de l'être. L'être en puissance, l'être en acte. Vous voyez le côté très subtil de cette analogie qui ne peut s'unifier que dans l'ordre de l'être. Mon intelligence alors saisit que l'être en puissance est ordonné à l'être en acte. Et l'être en acte comme tel est indépendant. Il a son autonomie. Il est premier par rapport à l'être en puissance. Je passe alors de ces états différents à l'indépendant. L'autonomie, la primauté de l'être en acte. Mais c'est pas commode. Hein? Nous y reviendrons parce que nous verrons comment il faut le faire. Ici, j'essaie de comprendre la position d'Aristote. Et vous voyez, Aristote va très vite là-dessus. C'est un bon professeur. Quand c'est très difficile, on va très vite. Parce qu'on met la vitesse suprême. Alors on va très vite. C'est toujours comme ça. Et regardez une course de voiture. Hein. Les points importants qu'on voudrait voir lentement. Après, on le voit au cinéma lentement. Et quand vous le voyez, à toute vitesse. Vous verrez, si vous enseignez un jour dans votre vie, que lorsque c'est très facile, on est en pleine, on s'étend, on a tout le temps. Dès que c'est difficile, il faut un effort de l'intelligence. Alors on va très vite. Et plus personne ne comprend rien. C'est comme ça, c'est la vie de l'intelligence. C'est très curieux la vie de l'intelligence. Quand vous filmez lentement, très bien. Aucun intérêt. Vous voyez, pousse la patte. C'est jamais comme ça, quoi. C'est pas la réalité du tout ça. L'intelligence, c'est du vif argent. Ça saisit ou ça ne saisit pas. Alors, induction synthétique, analogique, qui permet de saisir la primauté de l'être en acte comme principe, comme fin. Pas comme moi de saisir ce que c'est que la fin dans l'ordre de l'être. L'être en acte. Alors, c'est pour ça que je suis revenu, parce qu'on avait été vite la dernière fois, exprès. Alors, l'acte est donc à la fois celui qui bâtit l'être en acte, celui qui bâtit, celui qui est éveillé, celui qui voit, celui qui est séparé de la matière, ce qui est élaboré. Alors, on comprend la réflexion d'Aristote. Je cite ici Aristote, « Toutes choses ne sont pas dites également en acte, sinon d'une façon analogique, comme ceci est dans ceci ou vers ceci. » Alors ça, c'est extrêmement astucieux de voir que l'acte se présente pour nous selon ces deux aspects. Ou dans. Haine ou vers, pros. Ainsi, celui qui est dans cela ou vers cela. Certains êtres, en effet, sont comme en mouvement par rapport à la puissance. D'autres comme une substance par rapport à la matière. C'est aussi très astucieux. Voir ces deux formes ultime de l'acte. voici, c'est la fin. Première expérience de la fin. Le but. Quand vous tirez à l'arc, c'est peut-être l'expérience la plus classique et la plus première. Quand vous tirez à l'acte, c'est du reste Aristote prend cet exemple-là. Hein. L'ordre artistique. Faites cette expérience, vous aurez l'expérience toute simple de ce que c'est que le pros. Vous tendez l'arc et vous visez. Mais il ne fera pas le fusil, c'est grossier à côté de l'arc. C'est le mécanique, ça n'a aucun intérêt. L'arc, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est tout proche. Il y a tout l'effort. Vous tendez. à ce qui est en puissance. Et ce rapport s'exerce de deux façons, dans et vers. Oui, ces deux aspects vraiment, mais dans la réalité, ils sont très souvent liés. Et les deux sont présents. C'est très curieux. Parce que l'acte dépasse l'aspect quantitatif. Mais toute ma connaissance se fait par mode quantitatif. Or, la saisie de l'acte exige un dépassement de ce point de vue quantitatif. Il faut dépasser la forme. Je ne saisirai jamais l'acte par la forme. Ça explique, voyez, ça explique, c'est très curieux, ça explique des positions comme celle du père de finance. Le père de finance est un père jésuite qui a enseigné très longuement à la grégorienne, il vit encore. C'est quelqu'un de merveilleux, charmant, délicieux, je l'aime beaucoup. Le père de finance, moi j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça à Rome. Il va dire, oh, très bien, la communauté de Saint-Jean. Les pères jésuites auraient dû faire ça. Alors, c'était le sommet de la... Le père de finance dit que l'action est un super-être. Un sur-être. Vous voyez, pourquoi? Parce que il saisit l'être au niveau quantitatif. Si je saisis l'être au niveau de la forme, forcément, je dirais que l'acte est un sur-être. Alors, est-ce qu'il est encore de l'être? C'est à l'intérieur de ce qui est qu'on saisit l'acte. Et non pas comme quelque chose qui n'est plus être. Si, alors, je reprends, si on reste lié à la forme, à la manière de Platon. Si on reste lié à la forme, évidemment, l'acte sera un surêtre. Mais si on comprend que l'être n'est pas lié à la forme, que la forme, c'est ma manière de connaître, je connais tout quantitativement, selon une certaine forme. Alors, à ce moment-là, je comprends que l'être est saisi par la forme, c'est la substance, comme source de toutes les formes, comme principe de toutes les formes, mais que l'être n'est pas identique à la forme. Ceci est, je saisis l'être par le verbe et non pas premièrement par le nom. Si je saisis l'être par le verbe, je saisis donc le verbe par un mode d'exercice. Au-delà d'exercice, la substance est au-delà de la forme. L'acte est au-delà de l'opération. Est au-delà de l'exercice. Donc un super exercice, mais pas un surêtre. Parce que de fait, le langage me montre bien que ma manière de saisir la réalité, c'est d'une part de la saisir par la détermination. Ceci est le verbe. Et ça, c'est un signe. Hein. Le langage est un signe. Je vois donc qu'il y a deux dépassements pour saisir l'être. Le dépassement de la forme et le dépassement de l'exercice. Et l'acte, c'est le dépassement de l'exercice. Je ne peux pas aller plus loin dans cette analyse d'Aristote. Ceux qui auront du courage diront tout ce que j'ai pu essayer précisé dans l'être, en acte, sur Aristote. Mais je ne veux pas le faire ici parce que c'est fatigant. L'autre aspect dans cette topique historique, donc la topique historique de l'être en acte, Aristote, livre d'État, on s'y arrête, on ne perd pas son temps à s'y arrêter. Second aspect, la manière dont les théologiens ont utilisé l'être en acte et l'être en puissance. C'est un aspect très intéressant.
Possible est quelque chose qui disparaît quand la
vois bien que Avicenne est resté devant une description de l'être en acte et de l'être en puissance. Une description très subtile, très intéressante, mais il n'a pas dépassé l'aspect état en puissance, état en acte. Le possible n'est plus considéré que comme un état de l'être, une manière d'être, ce qui permet à la cause efficiente de réaliser l'acte. C'est une condition requise pour la réalisation de l'acte. Comme la car la cause efficiente ne peut réaliser l'acte à partir de ce qui est impossible, contradictoire. Vous voyez, tout de suite, la cause efficiente apparaît comme dominant l'acte, puisque c'est elle qui réalise l'acte. Donc, l'être en acte n'est pas saisi comme fin, puisque la fin est au-delà de la cause efficiente. Si l'être en acte est montré comme ce qui est réalisé, il est sous la domination de la cause efficiente. Et s'il est sous la domination de la cause efficiente, l'être en acte n'est pas saisi comme fin. Il est saisi comme effet. Et l'être en acte, lorsqu'il est saisi comme effet, est saisi nécessairement sous l'aspect d'un état particulier. Il est réalisé de telle manière. Avicenne présente la division de l'être en acte et de l'être en puissance comme une division semblable à la division par les accidents. De même que la division en parfait et imparfait, cause et effet, nécessaire et possible, un et multiple. Le caractère propre de la division de l'être acte et de l'être puissance n'est plus saisi, car l'acte lui-même n'est plus saisi comme fin. Vous voyez, si vous présentez l'être en acte comme un résultat, c'est ce que beaucoup préciseront et ce que Fabreau a saisi très fort quand il dit existence chez les scolastiques est présentée comme un résultat. C'est pour ça qu'il n'accepte pas qu'on dise que l'être en acte c'est l'existence, qu'il n'accepte pas que l'essai soit existence selon le terme existence, ce qui est l'effet. Bien, c'est très juste. Avicenne présente l'être en acte comme un effet. Extasis, l'effet, existence, sortie de la cause. À ce moment-là, l'être en acte n'est plus principe, mais un fruit. Un résultat, finis effectus, la fin est faite, l'œuvre est un résultat, mais l'œuvre n'est pas l'être en acte au sens parfait, il dépend de l'œuvre, il dépend de la réalisation artistique. S'il dépend de la réalisation artistique, il n'est plus ce qu'il y a d'ultime. Il y a quelque chose qui est avant lui. Et qu'est-ce quelque chose qui est avant lui? C'est la cause efficiente. Et la cause efficiente alors apparaît comme dominant l'acte. Avicenne décrit longuement la puissance, à la différence de l'acte qui est quelque chose de premier, et reprend la définition donnée par Aristote de la puissance, principe du changement dans un autre en tant qu'autre. scènes distinguent ainsi puissance active et puissance passive. La puissance active est de deux sortes. L'une qui ne peut pas ne pas agir, l'autre qui dépend de la volonté, du bon plaisir de l'homme. Mais dès que la volonté est jointe à cette puissance et qu'il n'y a pas d'obstacle, il ne se peut point que l'acte ne résulte. Tout ça, c'est de lui. La puissance opérative est perfection de puissance. À l'autre extrême, au degré le plus bas, on trouve la puissance absolue et matérielle. La puissance qui n'est que puissance, la matière, la pure puissance, la pure réceptivité. Donc, c'est très juste qu'il faut distinguer dans la dynamis, dans la puissance, deux aspects, une puissance active et une puissance passive. On voit très bien cela. La puissance passive, c'est la matière première. Et la puissance active, c'est celle de l'artiste, celui qui réalise quelque chose, celui qui peut bâtir, mais qui ne bâtit pas encore, et celui qui bâtit. C'est ce que les scolastiques distingueront, un acte premier, un acte second. Là, c'est une distinction scolastique. Distingueront en, puisque la puissance active peut agir, elle est donc en acte. Donc c'est l'acte premier. Et puis vous avez la puissance active qui agit, l'acte second. On va pas retenir ça, hein, mais ça existe, hein, et ça vient d'Avicenne. Ça vient d'Avicenne à cause de quoi? Que sa métaphysique de l'acte n'est pas parfaitement saisie. Alors, la fois prochaine, on verra comment Thomas d'Aquin est le seul théologien qui a saisi la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance. C'est la thèse de Monseigneur Bringard, hélas, qui n'a jamais passé puisqu'il est devenu évêque.